l'émission de sport, l'avant-match, entrevue, analyse, prévision, 100% sportive, les coulisses des grandes équipes, les derniers développements, les événements sportifs déterminants. Le sport, scruté à la loupe.
Le Canadien affronte ce soir les Islanders à Brooklyn, à New York. Si je vous avais dit il y a un mois que le 5 novembre, les Islanders, sans John Tavares, seraient premiers de la division métropolitaine, vous m'auriez probablement traité, avec raison, de fou.
On est le récupéré maintenant par Tourney, attaqué en famille, lance, et Max Tourney! Et c'est 1-0, le Canadien! Clave le tir, arrête pas de retourner, et goal! Yannick Gourde! Et c'est 4-1. Voilà, c'est la fin. La victoire du Lightning de Tampa Bay, 4-1 sur le Canadien de Montréal.
Kamara starts in the slot. Passes to Thomas. He's gone. Touchdown Saints. Wide open. Well, there's two guys who are there, but it's Josh Gordon, the second guy, into the touchdown.
Brady's a sneaky little devil.
C'est la première étape des séries, puis c'était la victoire aujourd'hui. Puis on savait que ça allait être difficile. C'est des conditions vraiment extrêmes, ça. Surtout pour l'attaque, là.
OFM 93, vous écoutez l'avant-match avec le Vez.
Salut tout le monde, bienvenue dans l'avant-match. Dan est en vacances pour la semaine, alors j'aurai le plaisir d'occuper le fauteuil avec Will de l'autre côté de la fenêtre, que je salue pour son, l'ensemble de son œuvre. C'est l'avant-match 1975. On va parler moins longtemps ce soir parce que le Canadien joue à 19h, donc l'émission d'avant-match du Canadien avec Martin McGuire et Danny Dubé va débuter à 18h30. On aura l'occasion, comme à tous les lundis, dans cette émission, de parler à Louis-Jean de TVA Sport. Vous avez entendu le petit montage. On revient rapidement sur la défaite du Canadien samedi contre le Lightning de Tampa Bay, les deux buts de Steven Stamkos. Max Domi a pris l'habitude de donner l'avance au Canadien depuis un bout de temps avec des buts marqués dans la première minute des matchs. Je sais qu'il y en a eu deux cette semaine. Je ne suis même pas sûr s'il n'y en a pas eu trois cette semaine de Max Domi en début de match, mais il a fallu que je vérifie. Mais Will va faire ça. Pour moi, samedi, Domi a marqué après 58 secondes. C'était son 7e but dans ses 8 derniers matchs. Le Lightning a une fiche quand même respectable de 6 victoires, aucune défaite contre des équipes de la Conférence de l'Est depuis le début de la saison. Et évidemment, ils sont premiers dans la Conférence de l'Est. Le Canadien, lui, n'a pas perdu 2 matchs de suite depuis le début de la campagne. Donc ce soir, il y a un enjeu pour le Canadien. Oui, on veut gagner le match, mais on veut éviter aussi de subir une deuxième défaite de suite pour la première fois de l'année. Ce ne sera pas une mince tâche parce que, comme je le disais en entrée de jeu, les Islanders sont premiers de la division métropolitaine. 8 victoires, 4 défaites, une défaite en bris d'égalité. Ils ont remporté leurs 5 derniers matchs. Barry Trotz, le nouvel entraîneur-chef des Islanders, a réussi à créer quelque chose dont personne ne s'attendait. Surtout après le départ de John Tavares l'été dernier. On aura l'occasion de reparler des Islanders avec Louis-Jean tout à l'heure. La semaine du Canadien, ça ressemble à ce soir contre les Islanders à New York. Demain, toujours à New York, mais à Manhattan contre les Rangers. Jeudi, retour à Montréal pour recevoir les Sabres de Buffalo. Et samedi, les Golden Knights de Las Vegas seront à Montréal. Peut-être avec Max Pacioretty qui a raté les deux derniers matchs, les trois derniers matchs, je pense, en raison d'une blessure. Alors, ce sera à surveiller au cours de la semaine. Ce soir, pour le match contre les Islanders, c'est Antti Niemi qui va être devant le filet du Canadien. Il y a 4 autres matchs présentés ce soir. On surveille un bon affrontement entre Dallas et Boston. 8 victoires, 5 défaites pour les Stars. 7-4 et 2 pour les Bruins. Mais surtout, un affrontement entre deux excellents joueurs dans la Ligue nationale. Du côté de Washington, les Capitals et Alexander Ovechkin reçoivent Connor McDavid et les Oilers d'Edmonton. Il y a Alex Chiasson qui a gagné la Coupe Stanley avec les Capitals, qui va affronter son ancienne équipe pour la deuxième fois, mais pour la première fois à Washington. Les deux équipes s'étaient affrontées à Edmonton il y a une dizaine de jours. Il y a aussi les Devils qui rendent visite aux Pingouins et les Flyers jouent en Arizona. Les Kings ont fait de John Stevens la première victime chez les entraîneurs-chefs de la Ligue nationale en fin de semaine. Les Remparts ont pas terminé leur match hier à Gatineau en raison d'une panne de courant. Les Remparts venaient de prendre les devants 2-1 en fin de deuxième période. On va devoir retourner à Gatineau plus tard cette saison pour disputer 21 minutes 54 secondes, donc pour compléter le match contre les Olympiques. Bravo aux Chevaliers de Lévis au Hockey Midget 3 qui ont remporté une 20e victoire en 20 matchs depuis le début de la campagne. Et un petit mot de football pour vous rappeler que pour la 6e année de suite, on va assister samedi prochain au Stade TELUS Université Laval à un affrontement entre les Carabins et le Rouge et Or à la finale du Québec pour la Coupe Dunsmore. Samedi, le Rouge et Or a blanchi Sherbrooke 40-0 alors que Montréal battait McGill 48-2. Donc, ça va être à surveiller évidemment samedi prochain. Et dans la NFL, il n'y a plus d'équipe invaincue depuis le début de la saison. Hier, les Rams de Los Angeles ont subi leur première défaite en 9 matchs, 45-35 contre les Saints de Nouvelle-Orléans. Les Saints connaissent aussi une très, très bonne saison. 7 victoires, une défaite. Et les Chiefs de Kansas City, même si Laurent Duvernay-Tardif est blessé, ont gagné pour une 8e fois en 9 matchs, 37-21 contre Cleveland. Ce soir, le Tennessee est à Dallas. Et on rejoint tout de suite notre collègue...
L'avant-match.
Bonsoir Louis.
Comment ça va?
Ça va très bien. Écoute, je vais faire une transition football-hockey parce que mon collègue de l'émission du matin, Sylvain Bouchard, ici, qui est un maniaque depuis toujours, puis on sait toujours pas pourquoi, des Bills de Buffalo, nous faisait remarquer qu'en fin de semaine, les Bills ont marqué autant de points que les Sabres ont marqué de buts samedi soir. Les Sabres ont gagné 9-2 contre Ottawa. Les Bills ont perdu 41-9 contre les Bears de Chicago. C'est quand même assez incroyable.
C'est assez spectaculaire. Et c'était, oui, le match en après-midi. Jason Pominville qui disputait son 1000e match en carrière.
Oui.
Et à un certain moment donné, on pensait qu'il avait même marqué un tour du chapeau. Finalement, il y a un but qui a été refusé. Mais je pense que quand on parle de la jeunesse, du dynamisme... qu'on voit un peu dans différents marchés là, à travers la Ligue nationale, pour ceux qui ont fait des poules ou qui ont fait des prédictions, dont c'est le cas, en tout cas pour moi, déjà, on a l'air un peu fou de voir certaines équipes qui sont exclues, comme les Kings de Los Angeles, que je croyais, moi, allaient connaître une grosse saison. Ils ont congédié leur entraîneur John Stevens parce que c'est croche, ça va pas bien là-bas. Et là, on commence à se poser la question, est-ce que c'est l'entraîneur ou est-ce que c'est peut-être le mauvais choix de joueur? Est-ce qu'on s'est trop, on a resté trop collé sur l'équipe qui a gagné deux Coupes Stanley,
ouais.
Mais les Sabres de Buffalo, c'est une équipe, je pense, qui surprend. On s'attendait à ce que on commence à voir l'ascension et des joueurs comme Jack Eichel et évidemment Rasmus Dahlin qui arrivent. Mm-hmm. Pourtant, Rasmus Dahlin, il n'a rien cassé à ses débuts, mais il va être exceptionnel, il n'y a pas aucun doute. Mais c'est une équipe, je pense, qui est en train d'être bâtie de la bonne façon. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Mais pour revenir à John Stevens, qui a perdu son poste avec les Kings... Est-ce qu'on s'est trompé? Quand tu parles on s'est trompé sur le choix des joueurs, Ilya Kovalchuk, de toute évidence, ça n'apporte pas ce dont on s'attendait de lui?
Mais je ne suis pas prêt à dire, par contre, qu'Ilya Kovalchuk, qui ne reste plus de gaz dans le réservoir. Là, moi, je pense que c'est encore un joueur qui peut être efficace. Le problème, c'est que globalement, c'est une grosse équipe, une équipe qui est un peu intimidante. Le problème, c'est que la Ligue nationale, c'est plus ça. La Ligue nationale, c'est l'habileté, c'est le patin, c'est la rapidité d'esprit. C'est les Yanni Gould, c'est les Jonathan Marchessault, c'est ça la Ligue nationale de hockey. Alors, si tu es une équipe qui a décidé de miser sur beaucoup de gros joueurs, malheureusement, tu as beau avoir Drew Doughty, évidemment, tu as ton gardien de but, Jonathan Quick, qui est blessé aussi, ça fait mal. Mais même si tu as un Drew Doughty ou tu as un Andre Kopitar, si tu n'as pas suffisamment de joueurs comme ça, ou tu n'as pas suffisamment comme mot d'ordre que, dans le fond, les gars, il faut qu'on fasse tout rapidement, même si on n'est pas les plus rapides, faut sortir de notre zone rapidement, faut prendre des décisions rapidement, faut être le premier sur la rondelle, ce genre de choses-là, ben, tu cours après ta queue. Et malheureusement, je pense que les Kings sont nettement meilleurs que ce qu'on a vu depuis le début de la campagne. Mais selon moi, on s'est trop fié, on a trop resté accroché sur l'équipe qui a gagné les deux championnats. On s'est dit, nous autres, c'est ça notre MO, là. C'est ça notre
ADN,
voilà. C'est le mot que je cherchais. C'est exactement ça. Notre ADN, c'est ça, c'est avec ça qu'on a gagné. Mais sais-tu quoi, en 2-3 ans, la Ligue a énormément changé et évolué.
Et le Canadien s'est bien ajusté dans tout ça avec la vitesse et ils s'en servent super bien. Jusqu'à quel point il faut rendre crédit à Claude Julien et son équipe d'entraîneurs? Parce que je le mentionnais un peu plus tôt aujourd'hui en onde ici à Québec. On n'est pas assez connaisseur en général pour voir des ajustements dans le système de jeu, dans les plans de match, mais j'ai l'impression qu'on a changé beaucoup d'affaires cette saison comparée à l'an dernier.
J'ai parlé avec John Cooper samedi matin avant le match face au Lightning et il a été questionné un peu sur le Canadien de Montréal et il m'a surpris en parlant des Canadiens. Il disait, ce club-là me rappelle le Lightning de Tampa Bay il y a 2 ou 3 ans. On n'était pas les plus gros, mais on jouait avec beaucoup de rapidité et c'était le caractère, évidemment les habiletés, je viens de le mentionner tout à l'heure. Il disait, ça me fait beaucoup penser à nous. C'est sûr que quand on regarde le Lightning de Tampa Bay, peut-être la comparaison est un peu boiteuse parce que quand on regarde le talent, il y en a beaucoup. Il y en a énormément et on parle du talent de très haut niveau du côté du Lightning. Mm-hmm. Il y en a pas mal moins chez le Canadien de Montréal, mais c'est vrai qu'il y a une transition qui a été faite. Et puis Cooper aussi mentionnait, quand je regarde, et depuis que je suis arrivé dans la Ligue nationale de hockey, du monde pour qui j'ai un énorme respect, du monde que j'ai utilisé un peu en modèle, il disait Claude Julien, c'en est un. Et c'est une chose d'avoir gagné avec les Bruins de Boston. Il y avait des équipes complètement différentes. Et je regarde, il dit, les Bruins en 2011, les Bruins en 2013 qui sont allés en finale. Et je regarde le Canadien, l'identité, l'ADN dont tu mentionnais tout à l'heure, elle est complètement, complètement aux antipodes de ce qu'on voit présentement. Mm-hmm. Et malgré tout, il a été en mesure de mettre en place un système, il a été en mesure de trouver une façon de motiver ses joueurs, même s'ils ne sont pas les plus gros, les plus talentueux, ils réussissent à compétitionner soir après soir. Alors ça, je pense que ça démontre à quel point c'est un bon coach. Et Claude Julien me l'a mentionné en début de saison. Il disait, écoute, l'année passée, ça a été l'année la plus difficile que j'ai eue au niveau professionnel. Alors, j'ai l'impression qu'autant que les joueurs se sont regardés dans le miroir, se sont dit, écoute, c'est inacceptable ce qu'on a vécu l'année passée. Mm. Je suis pas prêt à vivre une autre année d'enfer comme ça. Alors, moi-même, je vais me prendre en main. C'est la même chose pour les joueurs. C'est la même chose pour le coach. Puis d'abord et avant tout, ça passe aussi par le lien entre le directeur général et l'entraîneur. Claude Julien, s'il n'y a pas le feu vert, s'il n'y a pas l'aval de son GM pour dire, moi, je pense qu'on commence la saison avec Plekanec d'un gradin, avec Osner d'un gradin. La plupart des directeurs généraux diraient, je m'excuse, mais tu feras pas ça. Osner, on lui a donné un gros contrat, puis moi, je vais aller à neuf. Ouais. Alors, si t'as pas cet accord-là, si t'es pas backé par ton directeur général, jamais ça arrive. Et là, la saison part probablement complètement d'un autre sens. Alors, au contraire, on a immédiatement envoyé un message et on lui a fait comprendre et on a fait comprendre aux joueurs que l'imputabilité, c'est pas juste un mot qu'on veut utiliser pour être cute. Mm-hmm. Ça veut vraiment dire de quoi cette année pour le Canadien.
La grosse différence cette année chez le Canadien, c'est que Claude Julien a réussi à faire de cette équipe-là une équipe qui travaille à tous les soirs. Une équipe qui travaille tout le temps. C'est une équipe qui peut gagner à tous les soirs, peu importe le niveau de talent. Et on a la même chose
chez... Et ça ramène aux Kings.
Oui, exactement.
Et ça ramène juste pour la parenthèse par rapport aux Kings. Oui. Là, si les joueurs des Kings qui ont développé un sens de, au fil des ans, un sens de, on est établi, nous autres, on n'a plus vraiment besoin de faire nos preuves. Exactement. Alors, un moment donné, ça fait que tu as l'impression que tout est dû d'une certaine façon. Et c'est pour ça que Stevens n'est plus là. Mais le problème, pour moi, il est encore beaucoup plus grand parce que les Kings sont vraiment meilleurs que ce qu'on voit.
Ouais.
Mais est-ce que le travail est toujours là? Est-ce que le travail passe avant le talent? Mm-hmm. Je suis pas sûr.
J'ai lu un commentaire dans le journal de Québec ce matin. Puis, il y a un joueur qui a dit, on a changé la culture de l'équipe. Et cette réflexion-là peut s'appliquer autant aux Canadiens qu'aux Islanders, les adversaires de ce soir. Et le gars qui a mentionné ça, c'est Anthony Beauvillier des Islanders avec l'arrivée de Barry Trotz. Il faut pas oublier que les Islanders, là, il y a personne qui les voyait là où ils sont maintenant, premier de la division métropolitaine, parce qu'ils ont perdu John Tavares pour rien. Ils ont reçu zéro plus un, peut-être un. Oh, ils ont rien reçu, finalement. En retour, il est parti sur le marché des joueurs autonomes. Mais ils ont réussi à changer la culture chez les Islanders comme on a réussi à le faire chez le Canadien. Puis le Canadien, moi, je les comparerais peut-être un peu aux Golden Knights de Vegas l'an dernier. Il n'y avait rien à perdre en débutant saison. Je me trompe-tu?
Exactement. La différence, c'est qu'ils sont épiés et scrutés à la loupe beaucoup plus que les Golden Knights, mais ton point sur les Islanders est très, très, très bon et très intéressant parce que imagine, t'es Anthony Beauvillier, t'as fait quelques camps d'entraînement, t'as fait quelques saisons professionnelles. Et tout ce que tu as connu, c'est Gaud Chinon comme directeur général. Là, il y a Lou Lamoriello qui arrive. Oh, là, en partant, ça va être extrêmement différent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on ait l'impression que parfois, il est peut-être un peu dépassé dans ses façons de faire. C'est quand même Lou Lamoriello. Il est extrêmement respecté. Ce qu'il était en mesure de faire à Toronto avec les Devils New Jersey, ben, c'est quand même une personne qui se retrouve au temple de renommée. Donc, il est une personne qui a quand même une certaine aura autour de lui. Et là, tu amènes un gars comme Barry Trotz. Et sans vouloir critiquer ou envoyer des flèches à l'ancien entraîneur qui était là, à Doug Weight, mais c'est pas du tout la même chose. Barry Trotz, lui, vient de gagner une Coupe Stanley. Ça fait 25 ans qu'il se retrouve dans la Ligue nationale d'hockey. Quand ça fait 25 ans que tu travailles pour des organisations, tu viens de gagner la Coupe Stanley, et tu viens de signer aussi un contrat de 5 millions par saison. Je m'excuse, mais les joueurs vont t'écouter. Et suis convaincu, puis j'ai pas parlé aux joueurs, honnêtement. J'ai pas vraiment fait d'enquête, mais je suis pas mal certain de ce que j'avance. Je suis convaincu que le contraste au camp d'entraînement devait être un 180 degrés total. Il y a plusieurs joueurs qui sont dans l'organisation depuis quelques années. Matthew Barzal, qui, au niveau professionnel, avait connu que Doug Weight, que Gaud Chinon et tout ça. Ça doit être complètement différent. Même si John Tavares n'est plus là, ils ont rapidement compris à quel point ici, maintenant, ça va marcher de cette façon-là. Et soit que tu embarques, ou soit qu'on te fait débarquer du bateau.
Et Anthony Beauvillier racontait quelque chose qui illustre assez bien ton propos. Ils ont décidé, la direction, que Beauvillier ne porterait plus numéro 72, comme il le faisait depuis qu'il est avec les Islanders, mais numéro 18. Lui, il est arrivé au camp d'entraînement, il a vu le numéro 18 avec Beauvillier dans le dos. Écoute, j'ai un nouveau numéro. Il ne s'est pas obstiné beaucoup. Il dit, je choisis mes combats, mais ça permet de comprendre un peu le contrôle que veulent prendre Trotz et Lamoriello chez les Islanders.
Oui, ça, c'est du grand Lamoriello. Ouais, c'est pas sûr que c'est Barry Trotz.
Non, c'est ça.
C'est beaucoup plus un Lamoriello qui a dit, vous coupez vos cheveux, il n'y a plus de barbe.
Exact.
Et maintenant, votre numéro, c'est ça. Ouais. Aussi simple que ça.
Absolument. Louis, je veux qu'on parle rapidement, en terminant, de Hockey Fights Cancer, un événement qui a eu lieu samedi au match du Canadien, parce que tu as participé activement.
Oui, exactement. Le match, c'est une initiative depuis plus de 20 ans dans la Ligue nationale de hockey. Il y a au-dessus de 20 millions de dollars qui ont été amassés pour différentes initiatives pour combattre le cancer. Et samedi, ça a été extraordinaire au Centre Bell. Je veux dire, le Canadien sait toujours faire les choses en grand. La Fondation des Canadiens de Montréal qui ont reçu et ont voulu aussi rendre hommage aux enfants de l'UQAM. Donc, une soixantaine d'enfants qui sont en train de combattre actuellement des cancers. J'en connais quelques-uns personnellement que j'ai rencontrés au fil des ans à travers l'UQAM. Et il y a le petit Alex Gagnon que je connais bien aussi. Lorsque je fais le tour CBC l'été ou lorsque je fais différents événements, c'est une fille vraiment qui a fait en sorte que j'ai commencé à m'impliquer. Mais je présume que là où tu veux m'amener, c'est le jeune Benjamin Lamarche. On a présenté un court extrait de reportage, une entrevue que j'ai réalisée avec lui vendredi dernier. Et c'était extrêmement émouvant. Le petit Benjamin, c'est un fan de hockey. C'est un passionné, c'est un gars qui est toujours en train de jouer dehors. Il a deux sœurs plus vieilles, il menait une vie normale pour un jeune homme de 10 ans. Mais là, il a été complètement secoué, ébranlé lorsque le 10 octobre dernier, il a appris qu'il était diagnostiqué d'une leucémie. Alors évidemment, ça lui a coupé les jambes, lui et sa famille. Donc il est engagé dans un combat, fait des traitements de chimiothérapie. Et puis, écoute, c'était tellement touchant. Un garçon qui est lucide, un garçon qui s'exprime de façon extraordinaire pour un jeune homme de 10 ans, mais l'émotion qu'il a démontrée lorsqu'il m'a parlé de son combat et de ce qu'il traversait, c'était quelque chose qui était très touchant. Et la beauté dans tout ça, c'est qu'évidemment, on a présenté cette entrevue-là parce que ça avait un lien avec le hockey pour vaincre le cancer, mais aussi, il y a beaucoup de gens qui ont eu des pensées pour lui, qui ont eu des pensées pour les jeunes malades, et c'est le but un peu aussi, c'est d'être sensibilisé au fait que des fois, on pense avoir des bobos, des frustrations, il y a des choses qui vont pas bien des fois, dans notre vie, qui nous choque un peu. Mais quand on voit ça, ça nous ramène vraiment à la base, ça relativise énormément de choses.
Oui, ce sont des vrais champions. Louis, on va se dire bonsoir, puis au plaisir de se parler bientôt, puis aux auditeurs qui nous écoutent, on va vous faire entendre un petit extrait du reportage que tu as réalisé vendredi avec le jeune Benjamin. Salut Louis, merci, à bientôt.
Merci, à bientôt, prends soin de toi.
Merci. Alors, on écoute l'extrait.
Je suis fatiguée. Je suis venue ici à l'hôpital de Montréal pour savoir j'avais quoi. Puis finalement, J'avais trop de globules blancs dans mon sang. J'avais la leucémie.
Comment t'as réagi à tout ça?
J'ai capoté. J'ai eu peur. Puis, là, ça va déjà beaucoup mieux.
Peux-tu me montrer qu'est-ce qu'il y a en dessous là-dessus?
Parce que je perds mes cheveux, puis c'était gossant. J'avais des trous. Coiffeur, il est venu chez nous hier, puis il a fait vroom.
Alors, ça prend du sucre?
J'en ai
tant qu'à mettre une sucre, on met laquelle?
Celle du Canadien.
Hey, mon chum, lâche pas.
Mm-hmm. OK? FM 93. Ready? L'avant-match avec Levez.
Alors, au début de ma compagnie de paysagement, on faisait de l'argent, Caroline, qu'on a eu du fun. Et fin de semaine, on chalait à faire du 4 roues, du bateau, ski nautique, la belle vie. Hein.
Chez Raymond Chabot, on entend des milliers d'histoires d'endettement depuis 40 ans.
Mais après deux mauvaises saisons en ligne, j'ai dû faire une proposition de consommateur à mes créanciers. Fait qu'à cette heure, je mets de l'argent de côté pour les périodes creuses.
Quand survient un imprévu, on peut vous aider avec la suite de votre histoire. Confiez-nous vos problèmes de dette. Faites-le 1-855-R-CHABOT. Les tarifs des syndicats autorisés en insolvabilité sont régis par la loi.
Le samedi 10 novembre prochain, le cégep de Lévis-Lauzon ouvre ses portes. Viens découvrir nos nombreux programmes préuniversitaires et techniques. Vise haut, exige un cégep performant. Choisis le cégep de Lévis-Lauzon. Le samedi 10 novembre, de midi à 15h, on t'attend. Pour information, cll.qc.ca.
Les gars, confiez donc votre look au salon Blades Barbier. On vous rase avec serviette chaude, on vous coiffe à la lame, au ciseau ou au clipper. Pour vous améliorer votre look ou en créer un nouveau, venez rencontrer nos artistes de la coupe et du rasage. Eux autres, ils vont savoir quoi faire avec votre belle face. Et tant qu'à y être, offrez-vous donc le rasage royal, un rasage en 17 étapes. Profitez de nos nombreux spéciaux sur les pommades et crèmes à barbe. Les gars, arrêtez de chercher le salon parfait pour vous et surtout, faites pas ça vous-même. Confiez votre look à Blaise Barbier, aux Galeries de la Capitale.
Quoi? C'est possible d'être rémunéré pour participer à une étude clinique et séjourner avec d'autres participants dans une ambiance sympathique, écouter la télé, surfer sur le web et jouer à des jeux vidéo?
Oui, c'est possible chez Syneos Health.
Vous êtes âgé de 18 ans et plus et ne prenez pas de médicaments? Faites comme des milliers de personnes et participez à une étude clinique chez Syneos Health. Recevez jusqu'à 3 000 $ cet automne. Inscrivez-vous à monétudesyneossanté.com, monétudesyneossanté.com. Contribuez avec nous à la médecine de demain.
Boutiqueradio.ca. Toujours des rabais de 50%.
50% Omega Fitness Gym et chez Extermination Plus.
50% chez Mia Pasta, 1-800 God Junk, Québec Brou de Vanier et de l'Ancienne Lorette.
En vedette cette semaine, parfait pour retrouver la forme, 50% sur des cours privés de tennis chez ProSport.
Et offrez-vous le meilleur de la Belgique, d'authentiques bières belges au tout nouveau Belga sur Grande Allée. Profitez des chèques cadeaux de 50% de rabais.
Pour des rabais de 50% en tout temps, visitez maboutiqueradio.ca.
Dans l'avant-match, le football de la NFL avec William Wavin.
FM 93, ça me parle.
Ladies, Kamara starts in the slot. Passes to Thomas. He's gone. Touchdown Saints.
C'est là qu'on revient.
C'est là qu'on revient, Vez.
C'était un extrait du match des Rams contre les Saints hier, qui était le match à surveiller.
Ah oui.
Avec Will, comme à tous les lundis, on fait un petit résumé des principaux duels qui étaient à surveiller durant le week-end de la NFL. Évidemment, cette victoire-là, c'est une grosse surprise ou si ben, on s'attendait à ce que les Rams demeurent invaincus?
Oui, ben, une grosse surprise, peut-être pas, mais une surprise quand même. Les Rams, c'était la machine de football la plus huilée, la mieux huilée dans la NFL depuis le début de la saison. 8-0 hier avant d'arriver au Mercedes-Benz Stadium en Nouvelle-Orléans.
C'est ça, c'était sur le terrain des Saints. Là.
Absolument. Mais tu sais, les Saints également, on a perdu le premier match, mais on avait 6 victoires consécutives et on débarquait hier à la maison en plus en ayant battu les Vikings du Minnesota la semaine dernière, qui est peut-être, avec les Rams et les Saints, les 3 meilleures formations de la conférence nationale. Donc là, les Saints, c'est un statement qu'ils ont fait hier. C'est « OK, on est là, on est prêt, on est une des meilleures formations dans la NFL et on est capable de battre nos adversaires dans la nationale. » Alors, ça augure bien pour eux, puisque non seulement, probablement qu'ils vont encore affronter ces clubs-là en série, ils ont prouvé qu'ils sont capables de les battre, et en plus de ça, on s'est peut-être donné l'avantage pour avoir les séries à la maison, tout au long des séries. Alors, gros match pour les Saints, grosse victoire. Même les Rams sont revenus, 80 points marqués. Vez, 970 verges au total pour les deux équipes. What a show qu'on a eu entre les Rams et les Saints.
On s'est pas ennuyé, puis on a eu, ça a été serré jusqu'à la toute fin.
Jusqu'à la fin, en plus de ça.
C'était un petit peu moins serré pour la huitième victoire en 9 matchs de Kansas City contre Cleveland. Ça, c'est moins une surprise.
C'est moins une surprise que les Chiefs gagnent contre les Browns. Quand même, les Browns ont tiré leur épingle du jeu contre une grosse machine offensive, celle des Chiefs. Mais on se répète semaine après semaine, Vez, mais Patrick Mahomes, le carrière des Chiefs, c'est fort impressionnant. Ça a l'air facile pour lui de jouer dans la NFL et c'est sa première saison en tant que carrière partant. Puis il domine autant qu'il le faisait lorsqu'il jouait dans la NCAA au niveau universitaire. Mm-hmm. Donc, pour lui arriver dans la NFL, les défensives sont pas meilleures. C'est aussi facile pour lui. On a vraiment des machines et des armes à profusion en offensive du côté des Chiefs. Mm-hmm. Malheureusement, c'est sans Laurent Duvernay-Tardif qui est blessé présentement, sera probablement de retour en série. Mais les Chiefs, là, c'est une des formations qui sera dure à battre avec les Patriots dans l'Américaine pour accéder au Super Bowl.
Il y avait un match super le fun à surveiller hier soir impliquant deux futurs membres du Temple de la Renommée. C'est déjà automatique. Là.
C'est clair.
C'est quasiment des choix unanimes. Aaron Rodgers contre Tom Brady en Nouvelle-Angleterre.
Oui, le Brady-Rodgers Bowl que j'appelais hier soir. Mais on avait tellement de grosses attentes pour ce duel. Peut-être que nos attentes n'ont pas été nécessairement remplies. Mais quand même, c'était
Parce que c'est aussi les Pats contre les Packers.
Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'était surtout Tom Brady contre Aaron Rodgers. Puis en plus, avec le match qu'on avait eu à 16h30 entre les Rams et les Saints, on s'attendait aussi à un spectacle extraordinaire. Ça a été bon, mais pas autant que le match qu'on avait en après-midi. Quand même, Tom Brady a démontré que c'est encore lui qui est le roi et maître des carrières dans la NFL. C'est le plus expérimenté, c'est celui qui a le plus de championnats également. Puis Aaron Rodgers et les Packers, il a bien joué Rodgers, mais on a vu hier soir également que c'est pas un grand club de football, les Packers de Green Bay.
Surtout les Pats étaient privés de Gronkowski.
En plus de ça.
Et de Michel aussi.
Oui, exactement, leur porteur de ballon. Ouais. Donc Tom Brady avait moins d'armes à sa disposition. Mm-hmm. Quand même, ils ont gagné assez facilement contre les Packers. Là, les Packers, 3 victoires, 4 défaites, 1 nul. Ce sera difficile pour eux de gagner plusieurs matchs d'ici la fin de la saison pour espérer participer aux séries. Ça me fait penser aux Oilers d'Edmonton vers les Packers de Green Bay. On a un extraordinaire joueur, mais pas grand-chose autour.
Pour l'entourer, oui, exactement. Ce soir, il y avait Pittsburgh contre Baltimore aussi.
Ouais.
Ça, c'est toujours des matchs intéressants.
Oui, toujours des matchs intéressants, puis ça frappe. C'est jamais des matchs pour les doux entre les Ravens et les Steelers. Match de section, finalement remporté par les Steelers, 23-16. Donc, ils se donnent une très belle position pour gagner la section et participer encore aux séries. Ça a été un départ lent pour les Steelers, mais là, on semble se replacer.
Puis en 15 secondes, parce qu'on n'a pas besoin de plus, le match de ce soir, c'est pas pour rien pour écrire à sa mère. On verra pas tard ce soir.
Non. Cowboys-Titans, je pense que les Cowboys devraient gagner. Les Titans, Vest, c'est une des équipes les plus plates dans la NFL. Alors, le match du Canadien pourrait passer peut-être avant le Monday Night Football.
Oui, exactement. Merci, Will.
Merci,
demain.
Vez.
Will Boivin, notre spécialiste football. Ça complète l'avant-match pour aujourd'hui parce que le Canadien joue à 19h contre les Islanders à New York, à Brooklyn. Les Islanders, je vous le rappelle, en quête d'une 6e victoire de suite et c'est Antti Niemi qui sera devant le filet du Canadien. On va retrouver tout de suite après la pause Martin McGuire et Danny Dubé. Salut, à demain!
Les meilleurs moments de l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM 93, ça me parle.